Léon Blois, Histoire désobligeante, la tisane. Jacques se jugea simplement ignoble. C'était odieux de rester là dans l'obscurité comme un espion sacrilège, pendant que cette femme, si parfaitement inconnue de lui, se confessait. Mais alors il aurait fallu partir tout de suite, aussitôt que le prêtre en surplis était venu avec elle, ou du moins faire un peu de bruit pour qu'ils fussent avertis de la présence d'un étranger. Maintenant, c'était trop tard, et l'horrible indiscrétion ne pouvait plus que s'aggraver. Désœuvré, cherchant comme les cloportes un endroit frais à la fin de ce jour caniculaire, il avait eu la fantaisie, peu conforme à ses ordinaires fantaisies, d'entrer dans la vieille église, et s'était assis dans ce coin sombre, derrière ce confessionnal, pour y rêver, en regardant s'éteindre la grande rosace. Au bout de quelques minutes, sans savoir comment ni pourquoi, il devenait le témoin fort involontaire d'une confession. Il est vrai que les paroles ne lui arrivaient pas distinctes, et qu'en somme, il n'entendait qu'un chuchotement. Mais le colloque, vers la fin, semblait s'animer. Quelques syllabes, çà et là, se détachaient, émergeant du fleuve opaque de ce bavardage pénitentiel, et le jeune homme qui, par miracle, était le contraire d'un parfait goujat, craignit tout de même de surprendre des aveux qui ne lui étaient évidemment pas destinés. Soudain, cette prévision se réalisa. Un remous violent parut se produire. Les ondes immobiles grondèrent en se divisant comme pour laisser surgir un monstre, et l'auditeur, broyé d'épouvante, entendit ces mots, proférés avec impatience. « Je vous dis, mon père, que j'ai mis du poison dans sa tisane. » Puis, rien. La femme, dont le visage était invisible, se releva du prie-Dieu et, silencieusement, disparut dans le taillis des ténèbres. Pour ce qui est du prêtre, il ne bougeait pas plus qu'un mort, et de lentes minutes s'écoulèrent avant qu'il ouvrit la porte et qu'il s'en alla, à son tour, du pas pesant d'un homme assommé. Il fallut le carillon persistant des clés du bedeau et l'injonction de sortir longtemps bramé dans la nef pour que Jacques se levât lui-même, tellement il était abasourdi de cette parole qui retentissait en lui comme une clameur. Il avait parfaitement reconnu la voix de sa mère. Oh, impossible de s'y tromper. Il avait même reconnu sa démarche quand l'ombre de femme s'était dressée à deux pas de lui. Mais alors quoi? Tout croulait, tout fichait le camp, tout n'était qu'une monstrueuse blague. Il vivait seul avec cette mère qui ne voyait presque personne et ne sortait que pour aller aux offices. Il s'était habitué à la vénérer de toute son âme comme un exemplaire unique de la droiture et de la bonté. Aussi loin qu'il put voir dans le passé, rien de trouble, rien d'oblique, pas un repli, pas un détour, une belle route blanche à perte de vue sous un ciel pâle. Car l'existence de la pauvre femme avait été fort mélancolique. Depuis la mort de son mari, tué à Champigny, et dont le jeune homme se souvenait à peine, elle n'avait cessé de porter le deuil, s'occupant exclusivement de l'éducation de son fils, qu'elle ne quittait pas un seul jour. Elle n'avait jamais voulu l'envoyer aux écoles, redoutant pour lui des contacts, et s'était chargée complètement de son instruction, lui avait bâti son âme avec des morceaux de la sienne. Il tenait même de ce régime une sensibilité inquiète et des nerfs singulièrement vibrants qu'il exposait à de ridicules douleurs, peut-être aussi à de véritables dangers. quand l'adolescence était arrivée, les Freuden prévus qu'elle ne pouvait pas empêcher l'avaient fait un peu plus triste, sans altérer sa douceur. Ni reproche, ni scène muette. Elle avait accepté, comme tant d'autres, ce qui est inévitable. Enfin, tout le monde parlait d'elle avec respect, et lui seul au monde, son fils très cher, se voyait aujourd'hui forcé de la mépriser, à deux genoux, les yeux en pleurs, comme les anges mépriseraient Dieu s'il ne tenait pas ses promesses. Mais vraiment, c'était à devenir fou. C'était à hurler dans la rue. Sa mère, une empoisonneuse. C'était insensé, c'était un million de fois absurde. C'était absolument impossible. Et pourtant, c'était certain. Ne venait-elle pas de le déclarer elle-même ? Il se serait arraché la tête. Mais empoisonneuse de qui, bon Dieu ? Il ne connaissait personne qui fût mort empoisonné dans son entourage. Ce n'était pas son père qui avait reçu un paquet de mitraille dans le ventre. Ce n'était pas lui non plus qu'elle aurait essayé de tuer. Il n'avait jamais été malade, n'avait jamais eu besoin de tisane. Il se savait adoré. La première fois qu'il s'était attardé le soir, et ce n'était certes pas pour de propres choses, elle avait été malade elle-même d'inquiétude. Alors s'agissait-il d'un fait antérieur à sa naissance ? Son père l'avait épousée pour sa beauté lorsqu'elle avait à peine 20 ans. Ce mariage avait-il été précédé de quelque aventure pouvant impliquer un crime ? Non, cependant, ce passé limpide lui était connu, lui avait été raconté 100 fois, et les témoignages étaient trop certains. Alors pourquoi donc cet aveu terrible ? Pourquoi, surtout, pourquoi fallait-il qu'il en eût été le témoin ? Sous d'horreur et de désespoir, il revint à la maison. Sa mère accourut aussitôt l'embrasser. « Oh, comme tu rentres tard, mon cher enfant ! Oh, comme tu es pâle ! Serais-tu malade ?»« Non, répondit-il, je ne suis pas malade, mais cette grande chaleur me fatigue et je crois que je ne pourrai pas manger. » Et vous, maman, ne sentez-vous aucun malaise ? Vous êtes sortie sans doute pour chercher un peu de fraîcheur. Ah, il me semble vous avoir aperçu de loin sur le quai. Ah, je suis sortie en effet, mais tu n'as pu me voir sur le quai. J'ai été me confesser, ce que tu ne fais plus, je crois, depuis longtemps, mauvais sujet. Jacques s'étonna de n'être pas suffoqué, de ne pas tomber à la renverse, foudroyé, comme cela se voit dans les bons romans qu'il avait lus. C'était donc vrai qu'elle avait été se confesser. Il ne s'était donc pas endormi dans l'église, et cette catastrophe abominable n'était pas un cauchemar, ainsi qu'il l'avait, au une minute, follement conçu. Il ne tomba pas, mais il devint beaucoup plus pâle, et sa mère en fut effrayée. « Mais qu'as-tu donc, mon petit Jacques ? » lui dit-elle. « Tu souffres, tu caches quelque chose à ta mère. Tu devrais avoir plus de confiance en elle, qui n'aime que toi et qui n'a que toi. Comme tu me regardes, mon cher trésor, mais qu'est-ce que tu as donc ? Tu me fais peur. » Elle le prit amoureusement dans ses bras. « Écoute bien, grand enfant. Oh, je ne suis pas une curieuse, tu le sais, et je ne veux pas être ton juge. Ne me dis rien si tu ne veux rien me dire. Mais laisse-toi soigner. Tu vas te mettre au lit tout de suite. Pendant ce temps, je te préparerai un bon petit repas, très léger, que je t'apporterai moi-même, n'est-ce pas? Et si tu as de la fièvre cette nuit, je te ferai de la tisane. » Jacques, cette fois, roula par terre. « Enfin !» soupira-t-elle, un peu lasse, en étendant la main vers une sonnette. Jacques avait un anévrisme aux dernières périodes, et sa mère avait un amant qui ne voulait pas être beau-père. Ce drame simple s'est accompli il y a 3 ans dans le voisinage de Saint-Germain-des-Prés. La maison qui en fut le théâtre appartient à un entrepreneur de démolition.